on a l'habitude. Et c'est parti pour notre étude de la paracha de Acharemot Kedoshim. Acharemot Kedoshim, c'est un gros, gros morceau. C'est un très gros morceau et il va falloir qu'on essaie de l'aborder avec une ligne directrice. C'est des parachutes qui vont souvent être lus ensemble. Il va falloir essayer de comprendre quel est le fil conducteur de toutes ces parachutes. Et la première chose que je voudrais lancer ce soir, eh bien, c'est de savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé, soit vous-même ou alors vous avez vu ça, qu'un jour vous allez manger chez quelqu'un, machin, et à la fin du repas, s'il a des tendances un petit peu religieuses, eh bien, à la fin du repas, peut-être que vous l'avez vu prendre un petit verre d'eau et se mettre un petit peu d'eau sur le bout des doigts. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose comme ça? Eh bien oui, on a déjà vu quelque chose comme ça. Shalom, Maïs.
Coucou, désolé du retard, je suis là.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, je dis, si vous avez déjà vu ces gens faire ce genre de truc, eh bien, c'est un petit peu bizarre. Ils appellent ça Maïm Acharonim. Alors, on connaît le concept de Maïm Acharonim, mais est-ce qu'on le connaît Béhémet? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Dans le Shulchan Aruch, et avant cela, dans la Gemara, dans le traité de Choulin, on nous dit Chova litol yadaim lifne birkat Amazon. Obligatoire. Chova litol yadaim. Venitilazo, nikret, maim acharonim. La Gemara nous dit, donc dans le traité de Choulin à la page 105, nous avons l'obligation de nous laver les mains à la fin du repas, et ce lavage de mains s'appelle maim acharonim. Maintenant, attention, deux petites secondes. On connaît les maim rishonim, c'est le netilat yadaim avant le repas. Et là, la Gemara nous dit, il y a Maïm Acharonim à la fin du repas. Seulement, et là où ça devient bizarre, c'est quand on réfléchit, quelle est la raison? Eh bien, la raison, les amis, elle est purement médicale. Médicale. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire Maïm Acharonim? Nous dit la Gemara, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Zéro. Comme il n'y avait pas de frigo à l'époque, eh bien, comment est-ce qu'on gardait la viande? La viande, ça pourrit. Comment est-ce qu'on garde la viande? Eh bien, à l'époque, on mettait la viande dans du très gros sel, dans du sel corrosif. Ça s'appelait melar sdom. Ce n'est pas qu'il venait vraiment de Sodome, mais c'est un sel très, très dur. Et donc, ça gardait la viande. Et comme à l'époque, on n'avait pas de couvert et on mangeait avec les mimines, eh bien, à la fin du repas, tu manges, t'as mangé, t'en as plein les doigts. Eh bien, Chachamim, on peur qu'à la fin du repas, tu fasses comme ça. Comme on fait quand on est fatigué et qu'on a envie de faire son Chewbacca. Ça, c'était cadeau, c'était pour toi. C'était cadeau. Et donc, Chazal nous dit, comme c'est très dangereux d'avoir ce sel sur les mains et de se gratter les yeux, tu peux devenir aveugle. Alors, fais Maïm Acharonim. Ok, si bien que dans le Shulchan Aruch, il y aura marqué Maïm Acharonim Chova. Tout ça, c'est génial, sauf que personne, et je dis bien personne, ne fait ça. Personne ne fait Maïm Acharonim. Du moins, pas comme c'est marqué dans le Talmud. Parce que vous comprenez bien que si on appelle ça Maïm Acharonim, c'est par rapport à Maïm Rishonim. Et si les premières Rishonim, c'est avant le repas, on appelle ça Netilat Yadaim, eh bien la Gemara l'a appelé Choval Litol Yadaim à la fin. Donc c'est la même chose. C'est Netilat Yadaim avant et Netilat Yadaim après. Sauf qu'à ce moment-là, ma question est la suivante. Quand on fait Netilat Yadaim, on met un peu d'eau ou on met de l'eau? On met beaucoup d'eau. Non, Netilat Yadaim. Comment tu fais Netilat Yadaim? Tu fais beaucoup d'eau. Tu fais le Keli et tout ça, machin. Donc, si on doit faire Maïm Acharonim et que ça s'appelle Litol Yadaim, eh bien, il faudrait pour enlever le sel, comme ça, le mélarsdomite, eh bien, il faudrait aussi se laver les mains avec beaucoup d'eau. Sauf que personne ne fait ça. Pourquoi personne ne fait ça? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on a des frigos et qu'on mange avec des couverts. Et que donc, même à la fin du repas, si on se gratte les yeux, eh bien, l'okaracloum, tout va bien. Alors, c'est quoi ces gens qui se mettent un petit peu d'eau comme ça sur le bout des doigts à la fin du repas? Eh bien, ça, c'est un autre Maïm Acharonim qui n'a rien à voir avec la halakha. C'est un Maïm Acharonim de la Kabbalah. Et il sert à quoi ce Maïm Acharonim? Eh bien, il sert, d'après le Harizal, eh bien, à financer un petit peu les forces les plus barbares de l'homme. Car ces forces barbares se tiennent sous les ongles, au niveau des ongles, eh bien, tu leur donnes un petit peu à manger. Ok, eh bien, c'est sur cette très belle histoire de d'eau sur les ongles qu'on va commencer notre étude. On rentre dans la paracha de Acharemot. Et cette paracha, eh bien, elle est très claire sur ce qu'elle a envie de m'enseigner. Tout commence par Acharemot shene bene Aaron bekorvatam lifne Hashem vayamutu. C'est-à-dire que toute la paracha qui va m'expliquer comment le Kohen Gadol il doit travailler à Yom Kippour et tout ça, elle me dit, tout commence après la mort des enfants de Aaron. En d'autres termes, voilà ce que eux ils ont fait, je veux pas que tu fasses ça, moi je veux que tu vives. Le fil conducteur de Acharemot et Kedoshim, on va le voir, c'est la vie. Je veux que tu sois en pleine possession de ta vie. Alors comment on fait tout ça? Eh bien, les amis, c'est très simple. Pour être en pleine possession de ta vie, eh bien, il faut d'abord que tu sois conscient que la vie, c'est ici. On l'avait étudié ensemble quand je vous ai envoyé le cours sur la paracha de Shemini. Eh bien, les amis, le Kohen Gadol, il y a un danger avec le Kohen Gadol. Le danger du Kohen Gadol à l'époque du Beth Amikdash, c'est que lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'est plus jamais envie d'en sortir. Pourquoi il n'aurait pas envie d'en sortir? Mais parce qu'il est arrivé dans un état tellement extraordinaire. Pourquoi tu veux qu'il revienne ici dans ce monde avec le corona? Il n'a pas envie. Donc il reste là-bas. Comment ça s'appelle rester là-bas? Eh bien, on l'avait expliqué à l'époque, ça s'appelle rentrer dans le huitième jour. Nous sommes dans notre monde dans le septième jour. D'après les jours de la création, Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour, il a donné à l'homme, eh bien, de parfaire la création. Notre univers, c'est le septième jour. Ça fait 5781 ans qu'on est dans le septième jour. Le Beth Amikdash, et a fortiori le Kodesh HaKodashim, c'est le huitième jour. Et donc, lorsque le Kohen Gadol rentre là-bas, il n'a pas envie de revenir. Il est tellement bien là-bas, il veut rester. Et c'est pourquoi on lui dit, mais non, reviens avec nous. À tel point que le Zohar va nous expliquer qu'on lui mettait une corde autour du pied. Évidemment, ce n'est pas une corde physique, puisque c'est marqué dans le Zohar, ce n'est pas marqué dans le Talmud. Mais elle veut dire quoi, cette corde? Eh bien, cette corde, elle veut dire, reste avec nous, mon ami. Non, je vous rassure, ça ne veut rien, c'est pas une histoire de, à l'époque, il mourait dans le Kodesh HaKodashim, alors fallait pouvoir le tirer. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Nulle part, il est fait mention d'un Kohen Gadol qui meurt dans le Kodesh HaKodashim, il est fait mention l'inverse. Dans la Gemara, dans le traité de Yoma, à la page 10 et 11, eh bien, on fait référence justement à ces Kohanim Gdolim qui vivaient à l'époque du Second Temple et qui étaient pour la plupart corrompus. Ils achetaient la Keuna Gdola à Rome. Et le Talmud nous dit que lorsqu'ils transgressaient l'enseignement des Chachamim dans le Kodesh HaKodashim, ils recevaient une punition. Et c'était quoi cette punition? Lo ayu mesaimim et shnatam. Ils ne terminaient pas leur année. Mais alors là, les amis, les mathématiques. S'ils ont fauté à Kippour, et que la punition, c'est qu'ils ne terminent pas l'année, eh bien, ils ne mourront pas à Kippour. Ils mourront n'importe quand dans l'année, mais pas à Kippour. Ce n'est jamais arrivé qu'un Kohen Gadol meure dans le Kodesh HaKodashim. Mais qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? On veut nous enseigner, et d'ailleurs, il y a des gens qui disent que le Kohen Gadol, comment on sait s'il était mort dans le Kodesh HaKodashim? C'est si les clochettes arrêtaient de faire gling-gling. Parce que vous savez que le Kohen Gadol a un habit à clochettes, Le problème, c'est que quand on lit dans la paracha de cette semaine, on se rendra compte que lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il s'est changé. Il n'y a plus d'habit à clochette. Il est en habit blanc. Tout ça pour dire qu'il n'est jamais mort dans le Kodesh HaKodashim. Mais cette corde, elle veut dire « reste avec nous ». Dans la Mishnah, cette corde, elle porte un autre nom. Dans la Mishnah, on nous dit « Mashbi'in oto shelo yeshane yamin usmol ». On lui fait prêter serment qu'il ne changera pas de ce que les rabbins lui ont dit de faire. Comment on dit prêter serment en hébreu ? Mashbi'in, le'ashbi'a. Le'ashbi'a, la racine du mot, c'est Sheva. Sheva, c'est notre monde. On lui dit, reste avec nous. Reviens avec nous. Et le Kohen Gadol, donc, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, puiser la source de la vie, mais l'objectif, c'est qu'il en ressorte et qu'il vienne nous la donner. Seulement, une fois que le Kohen Gadol est sorti du Kodesh HaKodashim, qui nous a donné la vie, il nous a mis en contact avec la source de vie, et bien maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette vie? Et c'est là toute la question. Maintenant que tu as reçu la vie, t'en fais quoi? Et ça, c'est une grande question. C'est une question fondamentale pour l'être humain. Je suis conscient que j'ai reçu un cadeau extraordinaire. Est-ce que je vais l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient? Et c'est ce qui nous arrive, ce qui nous amène à un des versets peut-être les plus révoltants de la Torah. On est toujours dans la paracha de Aharemot, et à ce moment-là, on est toujours dans la avoda du Kohen Gadol Biyom HaKippurim, et arrive cette fameuse scène très bizarre où on arrive au Beth Amikdash et on met devant le Kohen Gadol deux boucs, deux seirim. Et là, le Kohen Gadol va tirer au sort. L'un des deux sera sacrifice au Beth Amikdash et l'autre sera Saïr l'Azazel, le fameux bouc émissaire. Seulement, quand on traduit, alors je ne sais pas comment on traduit en anglais. Comment on traduit en anglais le bouc émissaire, le Saïr l'Azazel?
Scapegoat.
Et ça veut dire ouais, c'est le bouc émissaire.
Oui, c'est bouc émissaire.
Nakhon.
Et ben, d'ailleurs, Kvoderav, oui, je veux préciser que Daniel, il interprète et aux Nations Unies. Donc, on a un maître du langage avec nous ce soir. Donc
moi, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà. Ah, voilà.
Il a fait. Mais alors. Voilà. Maintenant, si tu me dis que ça veut dire effectivement bouc émissaire, le problème, il est le même qu'en français. Il est que ça veut rien dire. Regardez le verset en hébreu. Et dites-moi si ça sent pas l'idolâtrie. Le verset en hébreu nous dit la chose suivante. On est dans le livre de Vayikra, au chapitre 16, Tet Zayin, dans les versets Zayin ad Yud, de les versets 7 à 10. Que nous dit le livre de Vayikra? On nous dit comme ça. Velakach et shnei aseirim, donc Aaron a pris les deux boucs, ve'emid otam lifnei Hashem. Il les a placés devant Dieu. Petacho el moed, à l'entrée du Mishkan. Ve'natan Aaron, al shnei aseirim goralot. Et c'est là que le bas blesse. Regardez. Goral echad l'Hashem, ve'goral echad l'Azazel. Et là, c'est révoltant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un Saïr va être envoyé pour Dieu et un pour Azazel. Je ne sais pas ce que ça veut dire Azazel pour l'instant. Mais je sais une chose, c'est qu'on me l'a mis face à Dieu. Moi, je croyais que le monothéisme était le motto du judaïsme. Je pensais qu'on ne croyait qu'en un seul Dieu. Et là, on me dit, il y a un Seir pour Yudke Vavke et un Seir pour Azazel. Même si je ne sais pas encore ce que c'est Azazel, j'ai l'impression d'entendre une dualité. Comme s'il y avait deux entités. Un Dieu et un autre chose. Et ça, c'est terrible parce que le judaïsme, a priori, nous dit Hashem Echad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Echad l'Hashem ve Echad l'Azazel. Certains ont voulu dire non, Azazel c'est le nom de l'endroit où on envoie le bouc. Seulement à ce moment-là, tu aurais dû dire un bouc pour le Mikdash et un bouc pour Azazel. Le fait qu'on mette en parallèle Dieu et Azazel, ça sent pas bon. C'est quoi Azazel ? Bien les amis, Azazel, c'est ce qu'on appelle dans le jargon rabbinique un malach. Mais comme vous le savez, les malachim, les anges, eh bien, c'est quoi ? Si on devait donner une définition des malachim, parce que ange, angel, c'est une traduction, ce n'est pas une définition. Quelle est la définition du malach ? Eh bien, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Malach égale expression de la volonté de Dieu. Exemple, l'expression de la volonté de Dieu de guérir s'appelle Réphaël. Ok, donc le malach Réphaël, c'est la volonté de Dieu de guérir. La volonté de Dieu d'être puissant s'appelle Gavriel, Gibor. La volonté de Dieu d'éclairer le monde s'appelle Oriel. La volonté de Dieu d'avoir des ordinateurs s'appelle Intel. C'est pareil, c'est le même truc. Et alors le problème, c'est que c'est qui Azazel ? Eh bien, Azazel, les amis, eh ben oui, tu l'avais pas vu venir celle-là. Eh ben, qu'est-ce que je te dise ? Malasot. Azazel, c'est la volonté d'utiliser les forces de Azout. Mazé Azout, Az, ce sont les forces primaires, brutales, la force brute, c'est Az. Et ces forces-là, eh bien, elles sont présentes dans l'homme. Des fois, quand on pète un câble, eh bien, on met en avant nos forces brutales. Ça arrive. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on emmène un bouc ? Un bouc, en hébreu, ça se dit « saïr ». Pourquoi est-ce que le saïr, le bouc, il s'appelle saïr ? Parce que c'est soer, parce que c'est plein de fougue. Le saïr, le bouc, il court partout, il grimpe sur les montagnes. Tu ne peux pas l'attraper. C'est ces forces-là, ces forces qui sont présentes dans l'homme. Et on va leur dire la chose suivante. On va vous donner à manger, entre guillemets. On va donner un saïr, la Azazel. D'ailleurs, l'endroit où on donne le saïr, c'est aussi extrêmement violent, puisque c'est un endroit qui s'appelle Maale Michmash. C'est à peu près à 19 km de Jérusalem. Donc, t'imagines le Kohen, le jour de Yom Kippour, il se balade avec son bouc pendant 19 km, dans le désert à côté de Jéricho. Et il va se balader là-bas, et là, il y a des falaises, il le balance par la falaise, oh, il va voye. Maintenant, vous me dites, non mais c'est Yom Kippour, il se trimballe 19 km sous le soleil, machin. La Gemara nous dit qu'il y avait des soukottes, tous les milles, tous les kilomètres et demi, il y avait des soukottes avec à boire et à manger. Le Kohen, il avait le droit de boire et manger. Ça m'a dit, la Gemara, il y a eu un miracle. Jamais personne n'a dit, j'ai faim, j'ai soif. Top ? En tout cas, le saïr, la Azazel, c'est donner de la force à ces forces-là. Mais pourquoi on fait ça ? Eh bien, on fait ça parce que nous dit le roi Salomon, dans le livre de Michelet, Im ra'ev sona'acha achileu lechem ve'im tzame ashkeu maim ki gechalim atachote al rosho. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Lama. Bien comme ça, c'est toi qui le domine. Si c'est toi qui le nourris, c'est toi son patron. On a très peur des choses qui semblent être trop fortes pour nous. Mais lorsque ton ennemi, celui qui pourrait te faire tomber, c'est toi qui le maîtrises, eh bien, il ne te fait plus peur. Ça devient un partenaire. Un petit peu comme le Yetzer Hara. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas le rejeter. Et le fait que Dieu, ce soit lui qui nous dise de donner Seir la Azazel, eh bien, cela montre que bien au contraire, il ne s'agit pas d'idolâtrie, il s'agit de malchuto bakol mashallah. C'est-à-dire qu'il montre qu'il domine tous les éléments de ce monde, y compris ses forces qui auraient pu nous échapper. En d'autres termes, eh bien, on vient te dire ici, à Yom Kippour, on va donner leur partie aux forces brutes pour que tu saches qu'elles font partie de ton existence et que tu n'aies pas peur d'apprendre à les dompter, à les maîtriser pour les utiliser. Les Tova. Qu'est-ce qui nous reste de ça aujourd'hui? Le fameux Maïm Acharonim avec lequel on a ouvert le cours. Parce que le fameux Maïm Acharonim, on met un petit peu d'eau, c'est Alpi Akabala pour donner un petit peu à manger à ces forces-là. Et donc, tu vas donner un petit peu, tu vas leur montrer que c'est toi le patron. Tu vas leur montrer que ce ne sont pas elles qui te dominent, mais au contraire, c'est toi qui es à la manœuvre, c'est toi le patron. T'as bien fait merde. Donc, en fait, toute la paracha de Acharemot est en train de m'expliquer, tu vas recevoir la source de vie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, d'abord, sache que c'est toi qui domines ta vie. Tu ne peux pas venir dire « Là, c'est pas moi, c'est mon Yetzerara. » Non, 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 c'est toi. Tu es responsable de ta vie tant pour faire le bien que pour faire le mal. Tu as reçu des forces, à toi d'apprendre à les maîtriser. Alors, très bien. Et ça sert à quoi tout ça? Maintenant que j'ai reçu ces forces, je vais en faire quoi de ces forces? Mais les amis, c'est très simple. De quoi je vais? Je vais apprendre à terminer le projet du fameux septième jour. On a dit que quand le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il rentre dans le huitième jour. Oui, mais le but, on vient de le dire, c'est de le ramener, cette force-là, ici-bas, dans le septième jour. Rappelez-vous, alors, vous me dites si mon accent séfarade est bon, d'accord? Demain soir, vous allez dire... C'est bien, je maîtrise pour l'instant.
Eli, qu'est-ce que t'en penses? Eli, c'est notre...
Ah, je suis d'accord.
Ouais, c'est comme ça que tu fais toi aussi.
Pas mal, hein?
T'as vu?
Il est plus... ils ont beaucoup plus de pause... Ça, c'est plutôt marocain. Yoann, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis...
Moi, je pense que c'est... Az bekorash gadol adir vechazak. Il n'y a pas beaucoup de différence.
Il n'y a pas beaucoup de différence.
On est en train de parler de caractère.
C'est Nahon.
Le bouc. Chacun a son bouc.
Nahon.
Je suis 75% tunisien, mais...
Passive, active, et il y en a qui sont des taureaux, c'est tout.
Zénachon. Qu'est-ce que tu dis, Eli?
Je suis 75% tunisien, mais je suis aussi 25% marocain de mon grand-père.
Zébécédère, on te garde quand même.
On te garde quand même.
Non, parce que je pourrais aussi te la jouer à Ashkenaz. Vaïkhoulou, Ashamayim, Soit on sort de la mosquée, soit on sort de l'église. Hein. C'est à vous de décider. Hein. C'est l'homme méchané. Quoi qu'il en soit, comment ça se termine cette histoire? Parce que le kiddush, c'est bien sympathique. Mais à la base, ce sont des versets de la Torah. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Vayevarer Elohim et Yom HaShevi'i, Vayekadesh Oto. Le projet du septième jour, c'est d'arriver à la Kedusha. Sauf que qui doit y arriver? Qui doit remplir la mission du septième jour? Eh bien, on nous dit « Qui vaut Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot ». C'est-à-dire que Dieu, le septième jour, a dit « Ok, c'est plus à moi de travailler, c'est à vous. C'est à vous, Béné Adam, c'est à vous, l'homme, de parfaire la création. C'est à vous d'arriver à la Kedusha. » C'est tout un programme. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la Kedusha. Avant d'essayer d'y arriver, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Eh bien, les amis, je vous le dis très sincèrement, la Kedusha, c'est l'inverse de la Beracha. Il y a deux notions dans le judaïsme, Bracha et Kedusha, qui sont pratiquement opposées. Puisque, nous dit le Talmud, à propos du verset qu'on vient de lire, « Vayevarer Elohim et Yom HaShevi'i » Vaikadesh Oto. Dans la Torah, on nous dit que le septième jour, il y a Ebracha et Kedusha. Mais qu'est-ce que c'est? Nous dit le Talmud, Bema Bircho, comment il a amené la Bracha dans le monde? Beman, il a donné la manne. Que le vendredi, il y avait double ration de manne. Et ensuite, on nous dit Bema Kitcho. Alors, quoi il a appelé la Kedusha? On nous dit Beman. Que Shabbat, il n'y avait pas de man. En d'autres termes, la Beracha, c'est quand il y a plein dans ce monde. La Kedusha, c'est quand il ne faut pas aller chercher ça dans ce monde. La Beracha, c'est l'abondance matérielle. C'est la définition. Je ne sais pas si vous avez des Kohanim dans votre synagogue. Le Shabbat matin, en Chutz La'aretz, on fait Birkat Kohanim. D'accord ? Chez les Sfaradim. Eh bien, quand le Kohen chez vous, il va faire Yevarechecha Hashem Veishmerecha, à quoi il doit penser ? Rashi nous dit, il doit penser Yirbu Nechasecha. Que ton compte en banque grandisse. Zéou, Zébracha. Alors, c'est quoi Kedusha ? Eh bien, la Kedusha, ça n'a rien à voir avec l'abondance matérielle. La Kedusha, c'est la capacité de se lier à Dieu. Ça passe par la bracha, parce que si tu es pauvre et que tu n'as rien et que tu ne sais pas comment tu vas manger et donner à manger à tes enfants, tu ne peux pas t'attacher à Dieu, tu as beaucoup de mal. Donc évidemment que ça passe par la bracha, mais la kedusha, c'est la capacité de s'attacher à Dieu. Ah ah, la capacité de s'attacher à Dieu, bah oui. C'est pour ça, par exemple, eh bien, que la Torah dans la paracha de Kedoshim nous dit d'aber el kol adat bnei Israël va'amartalem slicha kedoshim tiyu ki kadosh ani. Pourquoi Dieu nous demande d'être kedoshim? Parce que lui il est kadosh. Donc la dimension de kedusha, c'est la passerelle qui nous permet d'avoir un contact avec Dieu. OK. On a dit parashat acharemot, apprendre à contrôler les forces de la vie. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir, dans cette vie, nous attacher à Dieu. Alors, c'est super, mais on a juste un problème. Moi, je vais réussir à faire ça ? C'est pas un petit peu trop me demander ? Je pense que si Dieu, il le faisait lui-même, ça serait mieux fait. En vrai, qui c'est qui prépare mieux le Shabbat ? Ma mère ? Ou ma fille, qui a 5 ans? A priori, c'est ma mère. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que qui peut le mieux réussir le projet de l'histoire? C'est Dieu ou c'est l'homme? C'est pas dingue que c'est Dieu. Nakhon. Mais Dieu, il a décidé de me faire confiance. Machal lema adavar domé. Prenons une parabole pour expliquer cela. Est-ce que vous avez chez vous des enfants en bas âge, genre 5-6 ans? 7 ans, ça passe encore. Alors, rappelez-vous quand vous aviez des petits-enfants et imaginez-vous des petits-enfants où il y a le corona et les écoles sont fermées. Ça peut arriver, c'est un cas théorique, hein, évidemment. Je parle de choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Ou alors, dans un monde où il n'y a pas le corona, je parle de choses que je connais très personnellement, que la ganénette, elle a décidé de t'appeler jeudi soir, juste le Shabbat où il y avait 35 personnes qui venaient chez toi, et elle te dit, on a vu que ta fille, elle avait des poux, alors elle peut pas venir à l'école demain matin. Comment ça? Tu veux me dire que ma fille de 5 ans, elle va rester avec moi le jour où Shabbat, c'est en hiver? Où ça rentre à 4 heures et je dois préparer pour 35 personnes et je vais avoir maintenant un enfant de 5 ans dans les pattes? Eh bien, à ce moment-là, tu comprends ce que c'est que la définition du nudnik. Qu'est-ce que ça veut dire nudnik? Eh bien, veuillez m'excuser, mon cher interprète, mais je pense que la meilleure traduction du nudnik, ça s'appelle en français un chieur. Et on en a tous connu, je pense qu'on a tous été des gens comme ça, et moi le premier. En tout cas, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il vient toutes les 5 secondes et il te dit « Maman, je peux t'aider, je peux t'aider. » Et là, à un moment donné, tu dis à ton fils, ta fille bien-aimée, « Voilà les patates, tu vas être responsable d'éplucher les patates. Il est comme un fou, l'enfant. Et il y va, et il prend l'épluche légumes, et il y va. Toi, t'aurais fait ça en 3 minutes. Lui, ça fait au moins 37 minutes qu'il est sur l'épluchage des patates. Et je te raconte pas le mélange, parce que il y a patate avec morceaux de peau de l'homme et du sang. Enfin, il y a tout dans le saladier, hein, parce que Baruch HaShem. Maintenant, c'est sûr que la mère, elle aurait pu faire ça mieux, plus vite. Nachon. Aval, on veut responsabiliser l'homme. On veut lui donner la permission et la possibilité de participer au projet divin. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si jamais, eh bien, une fois qu'il a terminé, au bout de 3 heures, eh bien, tout le saladier avec les patates, il le présente avec tellement de gaava à sa mère et il le lâche, il tombe, il se brise et le saladier était en verre et il y a du verre partout et il n'y a plus de patates. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, la mère, elle a fait un miracle. Parce qu'elle avait déjà une purée qui était prête au congélateur au cas où. Alors, Beseider, Akadosh Baruch Hu, il est aussi capable de faire des miracles au cas où. Mais il veut que nous, on participe. Vous savez, le Talmud, il raconte l'histoire de Tournus Rufus, enfin, dans le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma, et dans la paracha de Tazria, il nous met en scène Tournus Rufus, le Romain Racha, qui vient voir Rabbi Akiva et qui lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux, les actions de Dieu ou les actions de l'homme? Et Rabbi Akiva, il dit, bah, évidemment, les actions de l'homme. Il dit, comment ça? Il dit, bah oui, Dieu, il nous a créés avec un prépuce, mais il nous a demandé de l'enlever. Dieu, il nous a donné le blé, mais nous, on en fait du pain. Donc, si tu veux, évidemment que les actions de l'homme sont préférables parce que son rôle est de parfaire la création. Tu as reçu des forces de vie, à toi de les utiliser pour créer ce monde. Et à ce moment-là, eh bien, on te dit, tu vas grâce à ça arriver à dévoiler Dieu, à te mettre en contact avec Dieu. Et là, je dis, bah ok, alors j'y vais. Et c'est là que je rentre dans la synagogue de Hari et je me dis, je vais tellement bien prier. Je vais tellement me mettre en connexion avec Dieu, je vais réussir le projet du septième jour. Sauf que, là, je redescends dans la réalité. Et j'arrive dans la synagogue, je dis de Harry, mais ça, en fait, ça peut être la mienne, hein, complètement la mienne. Et là, je me dis, je vais rentrer dans ma synagogue, je vais tellement. Et puis, je me rends compte que finalement, il y a plein de gens qui parlent. Ils sont pas venus pour faire la tfila. Ils sont venus pour retrouver leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis une semaine. Et puis en plus, on sent déjà l'odeur du kiddush qui est en train de se préparer. Et moi, j'aimerais bien pouvoir me concentrer. Mais le problème, c'est que le PSG va jouer en demi-finale de la Ligue des Champions. Et il se trouve que les gens, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a Perouche Rachid Tosfot sur le PSG. Et moi, je me dis, mais peut-être que finalement, alors, ce serait mieux que je m'isole dans une pièce pour prier tout seul. Je pourrais être plus en connexion avec Dieu. Dans toutes les autres religions, c'est ce qui se passe. Vous avez des temples tibétains avec des moines qui sont dans des endroits inaccessibles pour être en vase clos, pour être complètement détaché de ce monde. Moi, je vais me concentrer spiritualité. Ken, ça, c'est pas juif, les amis. Nous dit la paracha de Kedoshim, je reprends le premier verset de la paracha. Le premier verset de la paracha nous dit, d'aber, enfin, c'est le deuxième, d'aber Hashem el Moshe les morts, d'aber el kol adat bene Israël va marta alehem, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Rashi nous dit, que veut dire ce verset? Que Dieu a dit à Moshe de dire au Bnei Israël, soyez saints. Rashi nous dit, melamed she parasha zo ne'emra be'akel. Cela nous apprend que Moshe a donné cette parasha devant tout le monde. Oui, je sais bien, c'est ce qui a marqué. Il y a marqué d'Aber el kol adat bene Israël, parle à toute l'assemblée. Donc pourquoi Rashi m'apprend ça veut dire que Moshe, il a parlé à tout le monde. Mais c'est ce qui a marqué. Oui, mais il faut que tu comprennes. Ça veut dire que dans le judaïsme, si tu veux arriver à la Kedusha, il faut tout le monde. S'il te manque des gens dans tout le monde, tu n'arriveras pas à la Kedusha. Alors, il y a la Kedusha du Ham Israël, mais venez, on fait ça en plus petit. Je ne sais pas quels sont vos rabbins préférés, mais pensez à 9 rabbins extraordinaires. Je ne sais pas, vous prenez ceux que vous voulez. C'est-à-dire le Rav Kook, le Rambam, Rashi, le des vrais rabbins. Hein. Je ne sais pas, moi, par exemple, le Baal HaSoulam. Prenez 9 rabbins, mais là-haut, quoi, là-haut. Ben, c'est 9 rabbins mis ensemble. Ben, c'est très sympathique qu'ils soient tous ensemble. Mais s'ils sont 9 rabbins extraordinaires avec le Harizal et tout ce que tu veux, ils ne pourront pas faire la Kedusha dans la Tfila. Alors que d'un autre côté, tu mets 10 juifs qui savent à peine lire l'hébreu et qui sont Mechalel et Shabbatot, tu pourras faire la Kedusha. La Kedusha dépend du klal, dépend de mon attachement au collectif. Je ne suis pas pour parler pendant la tfila, ce n'est pas bien. Dans la tfila, ce serait bien qu'on soit dans la tfila. Mais d'un autre côté, une synagogue où ça parle pendant la tfila, c'est une synagogue pleine de vie. Une synagogue où il n'y a que des gens qui sont sur leur bouquin. Et que si jamais il y a quelqu'un qui demande quelque chose à son voisin, on lui dit « Chut !» Ce n'est plus une synagogue, c'est une bibliothèque. « Yesh chayim !» Ben, il y a un doute. Dans le judaïsme, yesh chayim, et cette chayim, cette vie, eh bien, elle est acquise par le collectif, par le peuple juif. Une fois que j'ai compris que la paracha de Acharemot me donnait la vie, que j'avais appris comment est-ce que je l'utilisais, cette vie, que la paracha de Kedoshim me dit, ben voilà, maintenant, cette vie, elle est là pour que tu arrives à la Kedusha et pour y arriver, le contact avec Dieu, eh bien, tu as besoin de tout le monde. Alors, je me dis, ok, mais comment est-ce que moi, maintenant que j'ai compris que je devais être attaché à tout le monde, mais quel est le travail que moi, au niveau individuel, j'ai à faire? Parce que c'est bien beau de tout rattacher au klal, et j'ai dit, c'est la base. Si tu te détaches de la collectivité, il n'y a pas de Kedusha. Mais maintenant que je suis rattaché, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas que moi aussi, j'ai un petit travail à faire sur moi? Eh bien, si. J'ai un travail à faire sur moi. Et tu sais quel est ce travail? Le Talmud pose la question et dit qu'est-ce que l'homme doit faire pour être un chassid? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être un chassid? Ah ben, ça, c'est une bonne question. Et le Talmud répond 3 avis. Soit tu dois étudier ce qui a marqué dans Maseret Brachot, soit tu étudies ce qui a marqué dans ma Maseret Nesikin, soit tu étudies ce qui a marqué dans ma Maseret Avot. Mais en fait, qu'est-ce qui nous apprend le Talmud? Pour être un chassid, pour être un mensch, comme on dit en arabe, il y a 3 directions. Soit tu apprends comment mettre en place ta relation avec Dieu. C'est ce qui a marqué dans ma Maseret Brachot, Ben Adam, Lamakom. Ou alors ta relation avec ton prochain. Maseret Nezikin, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est-à-dire toutes les relations avec mon voisin, avec mon prochain. Ou alors, c'est-à-dire Ben Adam, la Chavero. Ou alors, tout ce qui est en rapport entre moi et moi-même. Ben Adam, le Atzmo. Maseret Avot, qui m'apprend à moi me comporter bien. En d'autres termes, quel est le travail que moi, l'individu, je dois mettre en place? Eh bien, nous dit notre paracha une phrase que vous connaissez tous très bien. Ve'ahavta l're'acha kamocha ani Hashem. Et vous avez remarqué que dans ce verset, il y a les 3 dimensions. Ve'ahavta l're'acha, et tu aimeras ton prochain, c'est Ben Adam, la Chavero. Kamocha, comme toi-même, c'est Ben Adam, le Atzmo. Ani Hashem, Ben Adam, la makom. Oui, je dois être attaché à la collectivité du peuple d'Israël. Oui, je dois être attaché au klal, parce que sinon, j'y arriverai pas. Mais pour cela, eh bien, il faut que je comprenne que ma vie doit être un grand voyage où je vais travailler sur moi, sur mon prochain, sur ma relation à Dieu, et ensemble, on arrivera à quelque chose. Vous savez, le problème qu'on a, c'est que quand on voit d'autres personnes du peuple d'Israël qui ne sont pas comme nous et qui ne font pas exactement ce que nous, on pense qu'il faut faire, on se dit qu'il faudrait peut-être changer. Le Rav Kook, dans son livre « Oroth », dans la partie qui s'appelle « Oroth Israël », eh bien, nous dit dans le chapitre 4 une phrase extraordinaire. « Ahava agedola, shanachnu ohavim et umatenu » Cet amour extraordinaire avec lequel nous aimons notre peuple, l'otesame et enenu milevaker et kol mumea, ne va pas nous empêcher de critiquer là où il y a à critiquer. C'est pas parce que je suis amoureux du peuple juif que je vais pas dire là où ça va pas. Aval, inenu motziim et atzmiuta, gam acharei habikoret hayoter chofshit. Nekia mikol mum. Mais malgré la critique, après qu'on ait dit tout ce qui ne valait pas, eh bien, je reste plein d'un amour inconditionnel pour le peuple juif, et c'est un amour qui n'a pas de défaut. Shene emar, tel qu'il est marqué dans Shir HaShirim, kulach yafa ra'ayati umum einbach. Tu es totalement belle, ma bien-aimée, et il n'y a chez toi aucun défaut. Comment c'est possible de dire ça à sa femme ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous deviez sortir, et que juste avant de sortir, eh bien, ta femme te demande cette phrase, il faut des années de préparation pour savoir comment répondre. Comment tu me trouves ? La réponse à « comment tu me trouves ?»
Tu te laisses aller.
Alors voilà, si tu dis tu te laisses aller, a priori tu vas passer une mauvaise soirée. Et si tu dis mes chéris, tu es parfaite, seulement tu l'as dit trop vite et que tu n'as même pas eu le temps de la regarder, tu vas passer une sale semaine. Non, c'est pas facile de savoir répondre. Surtout lorsque nos femmes ont un outil que nous les hommes on ne connaît pas. Voilà, il y a un outil que nous, on ne connaît pas. Pourtant, on l'a dans nos maisons. Hein. Il existe dans nos maisons, mais nous, on ne l'utilise pas. On ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas à quoi il sert. Le miroir. Le miroir, cet outil, cet ustensile du Satan. Parce que le miroir fait que nos femmes, et ma fille maintenant, commencent à faire ce geste incompréhensible. Vous savez, il y a le miroir devant et elles font comme ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait regarder le nez d'aussi près. Je ne savais pas. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que quand tu te rapproches, tu vas voir le point noir qui est là. Dit le Rav Kook, pour avoir cet amour inconditionnel du peuple juif, il faut que ce soit Kulach yafar ayati. Je le prends de manière globale. Bien sûr qu'il y a des problèmes au niveau ponctuel. On va les corriger, les petits problèmes. Il faut Kulach yafar ayati. Et donc, c'est de cela qu'on parle, les amis. La vie, c'est un chemin pour arriver de Haremot à Kedoshim. C'est-à-dire arriver à comprendre que ma vie, j'en suis responsable et que maintenant, je vais pouvoir atteindre cette dimension de lien avec Dieu, de Kedusha. Quand on te dit Kedoshim Tiyu, les amis, est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est une promesse ? Soyez saints ou alors vous serez saints. Comment est-ce qu'on traduit Kedoshim Tiyu ? C'est de l'impératif ou c'est du futur ? Eh bien, c'est machloket entre le Rambam et le Ramban. Pour le Rambam, c'est une promesse. Dieu nous dit « Altidag atem tiyu kedoshim ». Le Ramban nous dit « Ze mitzvah ». Mitzvah liot kedoshim. Et le Rav Kook vient mettre les deux Rambam, Ramban d'accord en disant « Le Rambam parle du collectif et le Ramban parle de l'individu. » Au niveau du collectif d'Israël, on sera tous saints. C'est une promesse de Dieu. Au niveau de l'individu, il va falloir qu'on bosse, toi et moi, pour y arriver. Mais au final, on va y arriver. Et ça nous amènera à quelle dimension? Eh bien, lorsqu'on dit « Kedoshim tiyu ki kadosh ani », Rashi nous dit « Atayel imachem ». Atayel imachem. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire un tiyoul avec Dieu. J'aimerais qu'on comprenne deux secondes pour terminer, c'est quoi cette notion de tioul avec Dieu? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas une seconde dans leur journée. Et j'en vois un ici devant moi ce soir dans l'écran. Qui n'ont pas une seconde. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça incroyable parce que si moi, je dois me lever le matin pour faire le chiour, il y a des gens qui doivent rester réveillés le soir pour écouter le chiour. Et c'est pas plus facile. Je ne sais pas exactement quel est ton planning, Harry, mais je pense que tu essayes de rentrer à peu près 36 heures dans les 24 de la journée. À peu près. Hein, de plus ou moins. Donc, on court tout le temps. On court tout le temps. C'est fou. Et c'est pas que tu te dis... moi, j'ai vu pendant cette année du Zoom, je me suis dit au début, je vais gagner plein de temps. Parce que j'aurais plus besoin d'aller à chaque endroit. J'ai essayé de trouver des points positifs dans le Zoom. Il n'y en a pas de points positifs en vrai. Je préfère étudier et enseigner à quelqu'un qui est devant moi pour de vrai. Mais il y a quand même des points positifs. Je me suis dit, j'aurais plus de temps. Ben non. Parce que tout d'un coup, j'ai pris trois cours en plus. Là où je faisais un cours parce que j'avais besoin d'y aller, de le faire et de revenir, le moment où j'y allais, je fais un autre cours. Et le moment où je reviens, je fais un autre cours. Ben, on continue, on enchaîne. Et donc, je me dis, mais on n'arrête pas. Nahon. Mais quand on n'arrête pas, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que ma vie, c'est d'arriver d'un point A à un point B? Et donc, plus je peux y arriver vite, mieux c'est. Ou alors, je me rends compte que le chemin entre le point A et le point B fait partie du processus. Et ça, c'est la différence en hébreu de la Torah entre la lechet d'un point A à un point B, et donc le chemin n'est pas important, ou alors les hit alech, dans l'hébreu de Chazal, ça s'appelle les tayel, tioul. Vous savez bien, quand il y a une, j'imagine que vous en faites tout le temps, des réunions d'affaires, quand il y a une réunion d'affaires, il y a deux personnes qui se retrouvent, deux, trois, quatre, comme Chané, ils se retrouvent. Mais le but de la rencontre, c'est de parler du business. Mais c'est quoi le but d'un repas romantique aux chandelles avec ta bien-aimée? Est-ce que c'est pour parler de tous les problèmes qu'il y a avec les enfants et l'école qui a appelé, machin? Ou est-ce que le simple objectif du repas, c'est d'être ensemble? Eh bien, c'est toute la différence entre la lechet et les tayel. La lechet, c'est « je veux arriver le plus vite possible ». Alors que quand tu kiffes en tioul, tu n'as pas envie qu'il se termine. Eh bien, c'est ça la dimension de Kedusha. Atayel imachem. D'avoir cette dimension de contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, vous savez quoi, les amis? C'est avec ça que s'ouvre le Talmud. Le Talmud s'ouvre sur une histoire de tioul. On nous dit dans le traité de Brachot que Rabbi Yossi היה מהלך בדרך. הוא היה מהלך בדרך. מהלך, מטייל. C'est arrivé l'heure de la tfila. Qu'est-ce qu'il a fait? נכנס בחורבה אחת. Il est rentré dans une ruine. Mais c'est une ruine. De quelle ruine on parle? Nous dit le Rav Kook, il est rentré dans la ruine. Dans la ruine du Beth Amikdash. Il est rentré, Be'echad Michurvot Yerushalayim, le Talmud dit, le Rav Kook dit, Bachurva Ha'achat, dans la ruine de Jérusalem. Il est rentré à l'endroit du Beth Amikdash et il s'est caché là-bas pour prier. Eliyahu Navi est venu et lui a gardé l'entrée. Et une fois qu'il avait terminé de prier, Eliyahu lui a dit, pourquoi tu es rentré là pour prier? Et Rabbi Yossi répond, parce que j'avais peur que viennent me déranger les Ovrei Drachim. Ovrei Drachim, c'est Miché Holech, qui va d'un point A à un point B. Moi, j'étais en train de l'éhalech, de l'étayel avec Dieu. Et Eliyahu Navi lui dit une réponse incroyable. Il dit, tu as eu tort. Tu as eu tort de rentrer dans cet endroit du Beth Amikdash pour t'enfermer à aller prier. Tu aurais dû prier Baderech. Tu aurais dû enseigner à ceux qui ne font que passer comment est-ce qu'on est en tioul avec Dieu. Tu n'aurais pas dû t'enfermer pour être dans une ambiance de religieux. Tu aurais dû sortir pour leur expliquer à tous comment est-ce qu'on devient des Mealchim et pas des Ovrim. La paracha de Acharemot Kedoshim, c'est comment est-ce que j'utilise ma vie pour créer le lien avec Akadosh Baruch Hu et parfaire le monde. Pour cela, j'ai besoin de tout le monde. Et ma responsabilité, eh bien, c'est que, justement, tout le monde soit concerné. Shabbat Shalom Lekulam.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci beaucoup, monsieur le rabbin.
C'était
magnifique.